Le fils, c'est qu'il se rend pas compte qu'il est drôle, hein? Il est bien sérieux, il est très stoïque, puis... En tout cas.
Merci à Raphaël d'aimer comme ça les gens de l'église. Ouais. Mais là, il y a des préférés avant. T'es pas jalouse, Geneviève? Avant, le disant, ça sert à côté de toi. Mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est ça la vie. Hey, on est dans Ésaïe 26. J'aimerais qu'on lise. On va lire le début du chapitre et la fin du chapitre. On a lu au complet tantôt avant le temps de prière. Et souvent, on connaît Ésaïe 26 pour surtout les versets 3 et 4. Là. Je dirais surtout le verset 3. Genre de verset qui est sur des murs, ça. Pas mal, là, parce que c'est un très, très beau verset. Très beau chapitre de la parole de Dieu. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte et nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et si on lit les deux derniers versets, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Seigneur, on veut être enseigné de toi. Merci que ta parole, elle est vivante. Elle ranime, elle ravive nos cœurs. Elle est extraordinaire, Seigneur, parce que on te découvre. Tu te révèles à nous, Seigneur, dans ta sainte parole. Et merci, Seigneur, pour ce temps ce matin que tu nous donnes ensemble. On s'en remet à toi, Seigneur, que tu puisses vraiment nous enseigner, nous transformer. Seigneur, accomplir ta volonté. Merci pour chacun ici. Merci que c'est un rendez-vous avec toi. Et que, Seigneur, on veut simplement être disposé ce matin à te laisser faire ce que toi tu veux faire avec nous. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça, je le disais tantôt, les versets. Hein, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Souvent, on réduit le chapitre au complet à ça, mais il ne faut certainement pas manquer pourquoi il est tant aimé, parce que c'est un appel à la confiance en l'Éternel, à la foi en Dieu. Et la fin du chapitre, pour sa part, amène un contraste par rapport à la honte et à la culpabilité qui peut être ressentie par rapport aux pensées, au passé, pardon, et qui peut revenir nous hanter. Le peuple de Dieu avait vécu toutes sortes de choses et n'en était même pas encore sorti, mais Dieu parle à son peuple, il interpelle le reste ici fidèle qui se confie en l'Éternel en disant « Ferme la porte derrière toi ». On va développer cette image-là, mais aussi j'aimerais vous attirer votre attention à la fin du verset 20, jusqu'à ce que la colère soit passée. Parce que le jugement de l'Éternel était là. Dieu jugeait son peuple, c'est un temps où est-ce que vraiment il rappelait à son peuple qu'il y avait des conséquences au péché. Évidemment, il y avait un reste fidèle et c'est pour ça qu'il s'adresse à eux en disant « Faites-vous-en pas, la colère est passagère. » Mais j'aimerais qu'on voit ce passage à la lumière de la croix. C'est-à-dire que la colère, elle est passée. Elle est passée, Christ l'a subi. La croix nous montre que, et ça, j'en parle souvent dans le ministère de prison, souvent les gens ont honte, ils se sentent coupables. J'ai dit « Si tu as accepté Christ, la colère de Dieu est toute tombée. » a été apaisé par Christ lui-même. Et donc, tu n'as pas à la porter sur toi-même, tu n'as pas à vivre avec ce fardeau, ce boulet, parce que Christ a subi le châtiment que nous méritions. Donc, la croix, la colère, elle est passée. Mais notre chair, cette fameuse chair, hein, a de la misère à croire parfois. Parce que ça arrive que des fois Dieu nous fait des excellentes promesses, des merveilleuses promesses de sa parole, puis on a de la misère à les croire pareil. On a de la misère des fois à entrer dans le repos de la foi. Puis je dirais aussi à y demeurer. Et voici la situation dont je fais référence, et pour la majorité d'entre nous, souvent, les patterns de notre chair, hein, parce qu'on a tous une chair, on n'a pas les mêmes patterns, mais on a tous une chair, elles s'expriment différemment. Les patterns de notre chair nous ont conduit souvent à nous sentir coupables, n'est-ce pas? On a honte, comment ça que j'ai encore fait ça, je suis bien lent à comprendre, je fais donc bien dur, ainsi de suite. La honte, la culpabilité, OK? Puis, on se sent mal de ne pas avoir honte. Apprendre à vivre la lumière de la croix, c'est comme, mais non, c'est pas normal. Je devrais avoir honte, je devrais me sentir mal, puis on a de la misère à croire que, non, Dieu nous amène à vivre dans une parfaite acceptation, dans le fait que tout est accompli, que tout est passé, que la honte, c'est plus notre partage, c'est plus notre identité, notre passé est passé. On va parler aussi de ça durant le message. Et donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que hein, lorsqu'on est habitué à gérer nos peurs, nos problèmes, en essayant de reprendre le contrôle là, avec les différentes réactions de notre chair, qui peuvent aller de la colère à l'amertume, l'anxiété, la fuite, le blâme, OK? Il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce qui arrive quand on agit comme ça avec notre chair, avec ces manifestations de la chair? Ben là, on se sent envahi par la culpabilité. On a voulu régler un problème, puis on en a créé un nouveau. Vous savez de quoi je parle? C'est de ça qu'on veut parler ce matin. Et donc, le cercle infernal de la culpabilité et du remords nous envahit. Et c'est précisément là le domaine où l'accusateur des frères se pointe le nez. Puis là, lui, il redouble. Il dit, t'as bien raison. Tu devrais avoir honte. T'es indigne, t'es ci, puis t'es ça. Et c'est le lieu aussi où des forteresses et des raisonnements sont établis. Et ça ne ressemble pas du tout à ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, que le Dieu de paix qui nous sanctifie là, au complet, là, le corps, l'âme et l'esprit, on a l'impression qu'il est bien loin, ce Dieu de paix. Où est-il dans ces moments-là? Ben, si vous êtes un enfant de Dieu, là, il est où, là? Il est là, présent en vous. C'est juste que le bruit de votre culpabilité, le bruit de ce que vous ressentez est plus fort que la voix de l'Esprit en dedans qui vous appelle à lui, qui vous amène à simplement lever les yeux, à regarder à celui qui est votre Dieu, qui est votre vie, qui est votre sortie de secours dans ces situations-là. Et pourquoi je dirais que c'est là le domaine de Satan? Non seulement Satan est l'accusateur des frères, mais il veut déformer qui Dieu est. Il veut nous présenter Dieu comme étant, dans ces moments-là, là, Dieu il est loin. Dieu il est inapprochable. Dieu il est implacable. Il est vraiment pas content de toi. Et là, la culpabilité peut devenir, comme ça, un mode de vie. Et je dirais même une motivation. Je me sens coupable, je vais essayer de faire de quoi pour apaiser Dieu parce que je me sens coupable. Et dans ce temps-là, ben tu sais, c'est ça. On est dans un pattern où est-ce que c'est plus Dieu qui est le centre, c'est moi qui est le centre, qui essaie de compenser, qui essaie de dealer avec les problèmes. Mais le problème, c'est que je suis au centre de la solution de ce que j'essaie de faire, et non pas Jésus-Christ, son œuvre et sa personne. C'est ça le problème. Je vous explique. Je vais vous l'illustrer avec un phénomène très réel qui arrive. Vous savez, au début que je faisais ma formation pour être aumônier à la prison, j'ai vu une madame qui était responsable de la sécurité. Okay, ça, c'est super important dans une prison. Là, ils nous forment bien comme il faut pour toutes sortes de facettes. Puis une chose qu'elle me dit, elle dit, il y a un détenu là, qui sort demain, là, puis je m'attends à le revoir la semaine prochaine. Pourquoi ça arrive? Parce que c'est quelque chose de commun. C'est un phénomène connu. Avec des détenus qui ne savent pas comment dealer avec le monde, avec la liberté qu'ils ont une fois qu'ils sont libérés, surtout quand c'est une longue sentence. Puis ils retombent malheureusement dans leur milieu criminel. Puis aussi, encore malheureusement, des fois, ils finissent par retourner en prison. Parce qu'ils ne savent pas comment dealer avec la liberté qu'ils ont. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là-bas, là, parce que je prêche la liberté en Christ. Puis si on a la liberté en Christ, on apprend à c'est quoi la vraie liberté. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut dire, OK, ça arrive dans le monde carcéral. Mais savez-vous que trop d'enfants de Dieu sont pris dans un pattern similaire? Parce qu'ils sont tellement habitués au pattern asservissant de leur chair, pour eux autres, c'est leur nature, c'est la normalité, qu'ils ne savent pas comment vivre la liberté du Saint-Esprit. Ils n'ont pas appris comment marcher par l'Esprit. Ils marchent par la chair. Puis par la chair qui essaye bien puis qui veut que des bonnes intentions, mais la chair pareil. Et là-dessus, vous connaissez Galates. Au chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, c'est quoi ça que je viens de décrire? Ben, dans des images qu'on a prises récemment, c'est la vie dans le désert. C'est les pérégrinations. C'est tourner en rond. Hein, David, toi qui es l'image, ça, c'est, on parle de ça aujourd'hui. David m'a dit, moi, je retiens les images. Je vais tout le temps voir quelqu'un qui tourne en rond. Effectivement. Et donc, c'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est pas la terre promise. Mais, OK, c'est pas comme ça qu'on marche par l'Esprit, mais c'est comme ça que le Seigneur veut nous enseigner, veut nous amener au point où est-ce qu'il nous enseigne à marcher par l'Esprit. Autrement dit, t'as vu, ça, c'est pas l'authentique. C'est pas ma volonté. Cette chair, ces patterns, laisse-moi t'enseigner. C'est quoi la vraie vie? C'est quoi marcher avec moi? Pourquoi? Parce que Dieu, là, il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser nous épanouir puis être heureux sans lui. Fait que si Manuel avec la chair, on avait une bonne façon fonctionnelle de marcher, ben, on n'aurait pas besoin de Dieu. Ah, c'est le fun, j'ai trouvé une bonne façon, j'ai plus besoin de prier. Je connais quelqu'un qui a essayé ça, puis il pensait que ça marchait, mais ça n'a pas marché longtemps. Hein? Il dit, j'ai plus besoin de prier maintenant. Dieu a réglé mon problème, moi, j'ai plus de problème. C'est voulu par Dieu. Dieu veut qu'on dépende de lui. Et d'ailleurs, c'est quoi le grand mensonge de notre chair? Puis là, je parle là. Rappelez-vous quand je vous ai déjà dit, quand je parle de la chair, je ne veux pas que vous voyez la grosse chair avec des cornes, puis qui est avec Satan, puis qui est toute évidente. Pensez à la bonne chair pleine de bonnes intentions. Celle qui veut vraiment plaire à Dieu, mais la source, c'est moi, c'est pas l'Esprit de Dieu en moi. Le plus grand mensonge de la chair, la belle chair, de toute bien polie, tu sais, avec une Bible dans les mains et tout le kit. Le plus grand mensonge de cette chair, c'est qu'on peut vivre de façon indépendante de Dieu sur le carburant de la culpabilité. Là, je me sens mal, mais là, OK, Dieu, je veux vraiment essayer plus fort, puis je t'aime, Dieu, puis je veux. C'est un mensonge. C'est le moi qui est au centre de ça. Je veux vraiment, Seigneur, t'aimer. Au lieu de dire, non, c'est Christ en moi. C'est moi, ça n'a plus rapport. C'est Christ qui vient en moi. C'est ça, le mensonge de la chair, c'est que ça commence avec je. Puis là, toutes les bonnes intentions. Mais le problème de base, c'est le je. Et Dieu a tellement mieux pour nous autres. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi, m'a libéré, a brisé les chaînes de la loi du péché puis de la mort dans ma vie. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Avec Dieu, notre source de sécurité contre la culpabilité. Puis là, on va voir deux combats. On s'en va sur deux terrains où est-ce qu'il y a un combat. D'abord, le combat de l'oubli. Vous avez vu ça que dans notre vie, Dieu nous appelle au combat de l'oubli. On a dans le verset 20... « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » J'ai commencé un peu à expliquer ces choses à la lumière de la croix, mais j'aimerais vous expliquer ce verset-là. Bon, je vais expliquer le contexte d'Ésaïe, mais je crois que c'est vraiment ici la même idée que ce qu'on voit dans Philippiens chapitre 3, verset 13. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. » Le combat de l'oubli. Oublier le passé. Puis là, je vais vous expliquer ce que je veux en dire. En faisant un parallèle, en vous expliquant le contexte d'Ésaïe, ça va nous aider à comprendre. D'abord,
gardez votre place dans Ésaïe 26, mais venez avec moi dans Ésaïe 21, c'est-à-dire Ésaïe 1. Il n'y a pas de 20. Hein. On va lire à partir du verset 5. Ça va nous aider à comprendre ici. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais comme la plupart des prophètes, ça allait vraiment pas bien. Là, du temps qu'Ésaïe prêchait, là, c'était comme vraiment pathétique. Là. Puis l'idée, regardez bien ce que le prophète ici il dit, il parle à son peuple, il dit « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. » Ça, vous allez voir le médecin qui vous dit ça, là. Ça va pas très bien. « Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans le champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. » Ça, c'est cité dans Romains 9. Juste vous aider ici, c'est ça. On voit avec ce verset-là, c'est l'ouverture du livre, la situation allait de mal en pire. Et depuis longtemps, Dieu avait voulu châtier son peuple, avait voulu les ramener, puis on voit vraiment ici, il dit, de la tête aux pieds, là, vous êtes malade, c'est des plaies ouvertes. Vraiment, il décrit une situation vraiment de maladie avancée. Ici, évidemment, Dieu décrit la situation spirituelle de son peuple. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que bon, Dieu a suscité Ésaïe. À cette époque-là, à ce moment-là, où est-ce que ça allait si mal, pour proclamer le jugement, parce qu'il y avait des conséquences à tout ça, d'avoir rejeté Dieu et tout ça, mais aussi, en même temps, la grâce de Dieu, l'espérance de la grâce. Et c'est ce qu'on voit dans Ésaïe constamment. Jugement, grâce. Ou justice et grâce, c'est réconcilié parfaitement dans la croix. Hein? La justice de Dieu, sa grâce. C'est pour ça qu'on dit que Ésaïe est un prophète messianique, parce que ça tout pointe à la croix, c'est incroyable. Mais ça nous aide à comprendre que Ésaïe 26 est l'un de ces passages de grâce, d'espérance. Où est-ce qu'il s'adresse à ceux qui se confient en lui et dit « J'ai quelque chose pour vous autres, je ne vous ai pas abandonné, il y a de l'espérance pour les justes. » Et c'est-à-dire que les justes sont appelés à se confier en l'Éternel et ainsi jouir de la paix. Et donc, ils peuvent fermer la porte sur le passé de jugement qu'ils ont vu puis qui n'était pas fini, parce qu'il dit « la colère est presque passée ». Parce que dans l'échéancier de Dieu, là, Dieu n'avait pas fini avec son peuple. Il s'était gardé un reste, puis savez-vous quoi? Dieu a fait avancer les choses, puis c'est allé jusqu'à la croix, puis bon, on connaît le reste de l'histoire. Mais c'est vraiment le message ici du prophète. Et ça m'amène à ce point suivant. C'est ça l'idée du combat de l'oubli. Et je vous explique. C'est la question de où je me concentre, où je regarde. Parce que pour les gens en Israël, à l'époque, c'était facile de regarder à tout ce qui n'allait pas. Puis à l'apostasie. Pensez-vous que ça se peut que nous autres, on peut regarder à l'apostasie puis à tout ce qui ne va pas? Pensez-vous qu'on vit dans une époque pas mal similaire? Et donc, le combat de l'oubli, c'est, OK, c'est de regarder, de porter notre attention, okay, l'idée, c'est la proportion de notre attention sur Dieu, sur les choses de la foi. C'est pas d'ignorer ce qui se passe, c'est pas d'oublier complètement, pas tirer des leçons de l'histoire, mais où est-ce que notre centre d'attention se pose non sur le problème, non sur le passé, mais sur notre Dieu et l'espérance qu'il nous donne de toutes ses promesses. C'est ça aussi, aimer son avènement. OK, ça va mal, mais savez-vous quoi? Le retour du Seigneur, c'est une espérance vivante qu'on a de le voir lui, puis d'être dans ce, enfin libéré du péché puis de tout ce marasme dans lequel on est à cause du péché. C'est ça le combat de l'oubli. C'est ça fermer la porte derrière nous. C'est à comprendre à la lumière de la croix. C'est à comprendre à la lumière de Romains 6:6. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui.
afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves, car celui qui est mort est libre du péché. Dieu a fermé la porte sur notre passé. Et pour certaines personnes ici, leur passé, c'est un douloureux souvenir qui les tire vers le bas. Et voici c'est quoi le problème. C'est pas le passé tant que s'accrocher à ce passé. Le porter comme un fardeau, y porter attention d'une manière disproportionnée si on compare à regarder en avant. Oubliant ce qui est derrière, je porte les regards sur ce qui est en avant. Vous êtes venu en auto aujourd'hui? Est-ce que le rétroviseur est aussi gros que le windshield, comme on dit en bon québécois, le windshield? Le pare-brise, est-ce que les proportions, hein? Ben, ça l'illustre. On regarde principalement en avant, puis c'est là que ça se passe. Des fois, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, là, pour voir s'il y a quelque chose qui arrive par en arrière. Mais notre attention est... Donc, c'est ça. Oubliant ce qui est derrière, le combat de l'oubli, c'est dire... Se porter sur ce que Dieu est en train de faire, puis ah, Dieu est en avant. Au lieu de regarder en arrière, puis d'être pris avec ça. Puis notre marche avec Dieu, c'est ça. Notre passé, c'est pas ça la question, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, en tout cas, si je vous l'ai pas dit, là, je vous le dis. Notre passé est passé. Notre passé est nouveau en Jésus-Christ. Savez-vous ça, qu'avec Romains 6, on voit que, non seulement on dit, hey, j'ai une nouvelle vie, j'ai un nouveau futur, j'ai une nouvelle espérance, et c'est tout vrai, mais aussi j'ai un nouveau passé. Parce que Jésus s'est occupé de ce que j'étais. Puis j'ai été crucifié avec Christ. J'ai un nouveau passé. Mon identité, c'est plus ce que j'ai fait. Mon histoire, c'est ce que Dieu a fait de moi en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose. J'ai un nouveau passé. C'est pour ça qu'on est appelé à oublier ce qui était derrière et à porter les regards sur ce qui est en avant. C'est ça l'essence du combat de l'oubli. C'est de ne pas nous fixer à être pris dans le passé pour ainsi nous empêcher d'aller de l'avant. Parce que Dieu nous appelle à marcher. Et marcher, c'est par en avant. Mais maintenant, OK, si on oublie le passé, le combat de l'oubli, c'est quoi qui est en avant? C'est notre deuxième combat, le combat du repos. C'est des bizarres de points, hein? Le combat de l'oubli, le combat du repos. C'est un peu d'affaires qu'on parle bien souvent. Ah, je ne me bats pas bien pour ça, moi. Ah, vous allez voir qu'il y a un combat là, c'est certainement vrai. Verset 3 et verset 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ici, c'est une foi qui donne une paix reposante, une paix apaisante. Donc, le combat du repos, ici, Dieu s'adresse aux faibles restes. Eux autres, là, leur repos, ils le voyaient de loin en avant. Parce qu'ultimement, le repos, c'était en Christ. OK? Parce que, bon, disons que la vie ici sur Terre, c'est pas toujours reposant. Mais eux autres voyaient la promesse messianique. Et nous, on regarde le même Jésus, mais dans le passé. Mais c'est le même résultat, c'est la paix. Parce que Christ est notre paix. Et donc, jouir du repos de Dieu, c'est jouir du repos de sa grâce, de sa paix. Et là-dessus, je vous lis un verset qui est très intéressant dans la parole de Dieu. Écoutez bien ce que ça dit dans Hébreux au chapitre... Je pense que j'ai touché mon micro. Désolé, Josiah. Dans Hébreux au chapitre 4, verset 11. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Vous connaissez peut-être le verset, mais c'est drôle que... Ici, on a le commandement de s'empresser de rentrer dans le repos. Ça aussi, c'est un peu, quand même, spécial. Dépêche-toi, là, à te reposer, là. C'est rare, par exemple, qu'on entend ça. C'est plus dégadine, puis travaille, puis ouais, accomplis ce que t'as. Non, mais là, il dit, ah ouais, vas-y, là. Dépêche-toi à te reposer, à rentrer dans le repos. Pourquoi ce commandement? Parce qu'on aurait tendance à remettre plus tard de se reposer. Ben, écoutez bien. On parle de chair. L'activité chrétienne qui origine dans la chair. Tu sais, là, comme je disais tantôt, là, les bonnes intentions chrétiennes puis tout ça, on veut essayer de faire nos patterns, OK? Cette activité-là peut être un service un, je vais le mettre de même, un service pour Dieu dans la désobéissance. Ah, Dieu, je te sers, mais Dieu nous regarde et dit, oui, mais tu ne m'obéis pas. Tu ne te confies pas en moi. C'est pour ça que tu n'as pas la paix, c'est pour ça que tu es comme une poule pas de tête et que tu es tout agité. Parce que ça ne vient pas de l'origine qui est de moi. Rentre dans le repos. C'est dans ce sens-là que on comprend que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne le vrai repos. Et Dieu nous appelle ici dans Hébreux, puis ici ce qu'on voit aussi avec la confiance en l'Éternel qui donne la paix, Dieu nous appelle à s'empresser à rentrer dans le repos de sa grâce où lui travaille. Non seulement pour nous, mais en nous. C'est pour ça que c'est du repos, parce que c'est pas moi. C'est Christ qui vient en moi, c'est pas pénible. C'est pour ça que ses commandements sont pas pénibles, parce que c'est pas le fardeau et pas sur moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui est à l'œuvre. Et là, je fais une confession. Je suis un grand énervé, on pourrait dire boulomaniaque en sevrage. I'm recovering, OK? Je veux essayer de m'en remettre, là. Mais tellement toute ma vie, j'ai tellement été énervé, puis c'est quoi? C'est bon pour moi, ça, m'empresser de rentrer dans le repos, parce que j'ai tout fait dans ma vie sauf me reposer. Travailler fort, faites ça, puis puis dans la vie chrétienne, dans la vie ordinaire, ben la vie ordinaire, c'est pas comme deux domaines séparés, là, parce que ma vie chrétienne, je l'amène dans ma vie ordinaire. Là. Mais c'est vrai que la vie chrétienne, c'est extraordinaire. Mais bon, je vais pas arrêter de divaguer. Là. Mais donc, je suis en sevrage, parce que j'ai dû apprendre, je suis allé dans les grands énervés anonymes du Seigneur, et j'ai dû apprendre c'est quoi que ça veut dire de se reposer de nos œuvres en Dieu. Ou, pour le dire autrement, c'est quoi que ça veut dire de marcher par l'Esprit, de s'attendre à Dieu, ou simplement d'attendre Dieu. Des fois, on est tellement motivé, là, on prend même pas le temps d'attendre Dieu. Fait que là, on est là, puis on fait toutes sortes d'affaires qui, finalement, qui vont rimer à rien, parce qu'on n'a même pas attendu que Dieu nous dirige, que Dieu nous donne sa volonté, sa grâce. Et donc, comme beaucoup ici, je crois, pendant longtemps, je me suis vu comme un serviteur de Dieu. Je travaille pour Dieu. Je fais des choses pour Dieu. Et des bonnes choses. Et c'était facile parce que dans ma nature. Ça remonte. Tu sais, grand-père était le même. J'ai appris à travailler avec grand-père. Puis, je veux dire, c'est ça. C'est le même la vie. Mais lorsque le Saint-Esprit a commencé, non seulement à m'enseigner, mais à me faire comprendre Galates 2:20. Guillaume, c'est pas toi, là. Avec toutes tes bonnes volontés pour travailler pour moi, t'as plus rapport. C'est Christ en moi. Quand Dieu a commencé à m'enseigner ça, il y a une profonde transformation qui a commencé dans ma vie, dans mon être. Ça a complètement changé ma façon de voir la vie, mes relations, le ministère, tout. Et donc, je vous pose la question. Comment tu te considères aujourd'hui, là, comment tu te considères devant Dieu? Un ouvrier, un travailleur pour lui, ou un récipient dans lequel Dieu travaille. C'est complètement deux façons de voir la vie. Il y en a un, c'est moi, puis l'autre, c'est Christ qui vient en moi. C'est là le cœur du combat du repos. Se reposer de nos œuvres et par la foi, voir le Seigneur travailler dans nos vies. C'est la différence entre jouir d'une paix tellement sécurisante, apaisante de Dieu versus la tension qu'on peut avoir en mettant ce fardeau-là sur nos épaules. Et ceux qui se confient en l'Éternel comme ça expérimentent de plus en plus sa grâce et ils s'affermissent dans leurs sentiments. Et ça, je dirais, c'est le combat de la grâce versus la chair. C'est comme ça que le Seigneur nous apprend à marcher avec lui. Et l'issue du combat, c'est quoi? C'est la foi qui se repose en Dieu. Et donc, ça m'amène à ceci avec le message concernant Dieu qui est notre source de sécurité contre la culpabilité. Des fois, on peut se sentir mal, on peut essayer de se trouver des façons de compenser. Ça ne va jamais marcher. En résumé, là, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu contre les attaques de Satan, qui veut se servir de ma culpabilité pour me tirer vers le bas. Puis Dieu aussi a pourvu contre la ténacité de ma chair, qui veut pas, autant Satan, autant que ma chair, veut pas regarder à la croix. Mais Dieu a pourvu. Puis il a pourvu comment? À la croix. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et dans ce combat, on a décrit un combat aujourd'hui. Notre chair, Satan, le monde, ne veut pas se confier à l'Esprit qui vit en nous, qui nous a donné un cœur nouveau pour lui, qui prend plaisir en lui. Et le combat de la culpabilité, là, destructrice et mensongère, ça va contre la grâce restauratrice, véritable et bienveillante. C'est vraiment, choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Choisissez la vie. Et donc, on doit entrer simplement dans ce combat qui ne se combat pas avec des âmes charnelles, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. La chair, on le dit, ça ne sert à rien. Mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Puis là, on va se mettre à jouir dans notre vie de plus en plus du fait de ce renversement des forteresses, des raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et donc, ma question ce matin, j'ai demandé, voyez-vous comme quelqu'un, premièrement, qui travaille pour Dieu ou dans lequel Dieu travaille? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, vous pouvez regarder votre vie et dire, j'expérimente, là on ne parle pas de perfection ici, mais j'apprends et je découvre de plus en plus le repos de la terre promise. Où êtes-vous dans la vie pénible des pérégrinations dans le désert? Vous êtes habitué à la défaite, vous êtes surpris des fois par la victoire. Lequel vous décrit ce matin? Est-ce que vraiment vous jouissez de cette vie abondante dont Jésus a parlé? Le moyen, mes amis, c'est par la grâce en s'humiliant. En s'humiliant devant Dieu. Nous, en effet, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Il n'y a pas de réponse en moi. La réponse, elle est en Dieu. La réponse n'est pas dans ma chair, puis dans essayer de me donner plus à Dieu. La réponse est dans se confier dans sa grâce. Et peut-être que vous êtes ici ce matin, et Dieu connaît les cœurs, mais êtes-vous rentré dans le repos du salut? Est-ce que vous connaissez la paix avec Dieu? On a parlé de la paix de Dieu beaucoup pendant le message, je me suis adressé premièrement aux chrétiens, mais est-ce que vous avez la paix avec Dieu? Est-ce qu'entre vous et Dieu, c'est réglé? Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Nous avons la parole de la réconciliation. Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Le moyen, c'est par la grâce encore là. Il faut s'humilier. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. S'humilier, se confier, totalement dépendre de la provision de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alors, ne tardez pas. Si c'est votre cas, je vous laisse un verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, vous pouvez être sauvé par la grâce de Dieu. Jésus a tout accompli. Et pour les enfants de Dieu, on n'a plus à lutter. Empressons-nous de rentrer dans le repos.
Amen.
Merci Seigneur parce que tu es le Dieu véritable et vrai, digne de toute notre confiance. Et merci, Seigneur, que tu donnes une paix ineffable à ceux qui se confient en toi, qui sont fermes dans leurs sentiments, malgré ce combat qui fait rage en nous et autour de nous, Seigneur, avec cette chair si tenace, le monde, le diable. Mais Seigneur, tu es vainqueur, tu les as vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et donc, Seigneur, on s'empresse de rentrer dans le repos de Christ. Et Seigneur, s'il y en a ici qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore la paix avec toi, qui se tiennent encore coupables dans leurs offenses et leurs péchés, qu'aujourd'hui, Seigneur, ils peuvent voir que ton sang a été versé, que le pardon est offert à quiconque s'approche de toi par la foi. Seigneur, on s'attend à toi, puisses-tu faire ton œuvre dans ton peuple aujourd'hui, à ta gloire et pour toi, Seigneur. On te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.